L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Raize automatique à partir de 3900 francs seulement.
Bonjour Elisabeth Noir.
Bonjour Nicolas.
Retour ce matin sur cette séquence très importante à Bougival avec la signature d'un projet d'accord. Et pour en parler, vous recevez Virginie Rufnak.
Oui, notre invité du matin, c'est Virginie Rufnak, chef du groupe Rassemblement au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, qui a participé aux négociations à Bougival et qui a signé le projet d'accord sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation parce que, vous le savez, beaucoup, beaucoup de questions se posent sur ce projet d'accord. Alors tout de suite, vous l'avez signé. On imagine que pour vous, c'est un bon accord malgré les concessions que vous avez dû faire. Est-ce que c'est un accord équilibré ?
Ah oui, bien sûr, nous n'aurions jamais, et je veux le dire aux auditeurs, parce que je sens bien qu'il y a beaucoup de besoins d'explications et de volonté que nous rendions compte, bien sûr, de ce que nous avons signé. Nous n'aurions jamais signé un tel accord s'il n'était pas à la fois équilibré et s'il ne respectait pas le choix que les Calédoniens ont fait par trois fois. C'était indispensable pour nous et c'était le mandat. Et à plusieurs reprises, nous avons dit d'ailleurs à nos collègues indépendantistes et à l'État que nous avions un mandat et que nous ne pouvions pas sortir de ce mandat parce que la démocratie s'impose en Nouvelle-Calédonie et notamment ce choix des Calédoniens.
Quand vous êtes parti pour Paris après l'échec de Deva, cet accord franchement semblait improbable. Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qui a permis de dénouer les discussions, les négociations pour aboutir à ce projet d'accord ?
Quand on arrive à Paris, on est très sceptique. Pourquoi ? Parce que quand on part de Deva, pour nous, Deva, évidemment, c'est un accord qui fait sortir la Nouvelle-Calédonie de la République française. Quand vous transférez toutes les compétences régaliennes, que vous avez un statut international, que vous avez la nationalité, mais dont on sent que c'est peut-être une nationalité aussi à part entière. Bref, et donc on se dit à Paris que ça va être très compliqué et on avait l'impression qu'on n'avait plus d'espoir. Donc le président de la République nous convoque. Il réunit l'ensemble des partenaires pour se sommer sur l'avenir institutionnel. Et puis, nous arrivons donc ensuite, après la séquence économique qui est importante au regard de la situation de la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, nous arrivons en format politique. Vous savez que je mène la délégation du Rassemblement dans ces négociations qui est composée d'Alcide Ponga, président du gouvernement, et de Pascal Vidori pour associer les maires. Et là, on a un projet qui arrive sur la table par le ministre, qui est un référendum dans 15 ans. Et donc nous nous disons avec les loyalistes, hein, Sonia Baquès, Nicolas Metzor, Gilles Brial, Brieux-Frugier, qu'on ne peut pas, comme seule proposition aux Calédoniens, leur remettre un référendum dans 15 ans, alors qu'ils ont déjà tellement souffert de tous les référendums qu'ils ont vécu. Nous prenons alors l'initiative, Rassemblement loyaliste, de rencontrer les indépendantistes et de demander aux indépendantistes que nous nous rencontrions. Et nous voyons effectivement le FNKS et l'UNI pendant 24 à 48 heures, pour essayer
sans Calédonie ensemble, sans l'éveil océanien, qui était également présent à Paris, enfin qui était présent à Bougival également.
Oui, dans un premier temps, parce qu'en fait, nous sommes les deux délégations, qu'il s'agisse de Rassemblement et des loyalistes, et de l'autre côté, du FLNKS et de l'UNI, qui sont les plus radicalement opposés, en fait. Voilà. Et on comprend que du côté de Calédonie Ensemble et de l'éveil océanien, d'ailleurs les dernières déclarations encore publiques l'affirment, quel qu'était l'accord, ils y étaient plutôt favorables. Voilà. Donc nous les rencontrons et nous essayons dans un premier temps, et nous avons réassocié ensuite, hein, Calédonie Ensemble et l'éveil océanien bien sûr, mais nous essayons de voir où sont les limites. Et est-ce que nous pouvons tracer une route pour les Calédoniens dans les prochaines années, pour leur redonner confiance dans leur pays, dans leur territoire, et avoir envie à nouveau de s'impliquer en Nouvelle-Calédonie, de ne pas quitter ce territoire et de donner de la stabilité. Au bout de 24 à 36 heures de discussion sans l'État, hein, je précise, puisque nous avions mis dehors le ministre à ce moment-là, nous arrivons à une limite, puisque ce que nous proposons évidemment est en dessous de Deva, hein, forcément. Nous ne sommes pas pour l'indépendance, donc voilà. Et les indépendantistes sont vraiment une puissance de négociation importante. Ils sont déterminés dans les négociations. Ils sont unis, en fait. Et on a eu, finalement... Pourquoi cet accord est assez historique ? Parce que pour la première fois depuis de nombreuses années, on a reconstitution de deux blocs historiques qui sont déterminés sur leurs convictions. Les indépendantistes étaient déterminés sur leurs convictions. À aucun moment, ils n'ont trahi ce qu'ils représentent.
Ils étaient venus pour négocier, ils l'avaient dit, une indépendance, une souveraineté pleine et entière.
Et ils ont mené la négociation de manière sérieuse et intense en face à nous. Et nous, nous avons été d'une unité totale avec les loyalistes. Nous avons calé chacune de nos interventions. Nous avons eu des positions, mais totalement uniques et à plusieurs voix, bien sûr. Et c'est la richesse aussi de notre diversité, mais en même temps dans une totale unité. Donc nous avions deux blocs de négo. Et ensuite, si vous voulez, la base un peu de ce que nous avions travaillé a finalement été repris Et non plus cet référendum dans 15 ans, ce référendum dans 15 ans qui était posé sur la table, où là nous nous disions, là nous allons mettre à terre définitivement la Nouvelle-Calédonie si nous reprenons un référendum. C'était, si vous voulez, d'un côté l'indépendance association et la France de l'autre. Et nous ne nous voyons pas comme seule perspective proposer ça aux Calédoniens.
Donc vous arrivez dans, dans ce projet d'accord, c'est un projet, on y reviendra pour l'instant, ce n'est qu'un projet, dans un accord pérenne, c'est ce que vous mettez en avant, c'est-à-dire il n'y a pas de limite de temps, il n'y a pas de butée sur un référendum d'autodétermination, mais le transfert des compétences régaliennes est quand même possible. Et si les compétences régaliennes sont transférées, on arrive effectivement à l'indépendance.
Bah écoutez, nous, de notre côté, vous le savez, nous avons un mandat pour défendre les éléments de démocratie et de stabilité. Comme vous le disiez très justement, plus de référendum parce que nous avons tant voté est un élément majeur pour nous. Le dégel du corps électoral est aussi un élément majeur parce qu'on ne peut plus priver des personnes nées en Nouvelle-Calédonie.
On reviendra sur le détail de ce corps électoral.
Je donnerai le détail, mais ces éléments de démocratie sont fondamentaux. La répartition au Congrès avec plus de démocratie, on est 59% de la province sud, d'élus de la province sud, pardon, au Congrès de la Calédonie pour 75% de la population en province sud. Ces éléments sont fondamentaux et nous voulons que les compétences régaliennes soient exercées par l'État. Et ça, nous sommes à cheval là-dessus. Il y a une compétence sur laquelle nous cédons et nous faisons...
Celle des relations internationales ?
Celle des relations extérieures et donc internationales, ou dans le domaine de compétences de la Nouvelle-Calédonie uniquement, le commerce par exemple, mais pas les compétences régaliennes que sont la défense, la justice, mais uniquement dans le domaine de compétences de la Nouvelle-Calédonie, nous acceptons effectivement avec des garde-fous, c'est-à-dire que dans la région uniquement, cette compétence régalienne soit transférée. Mais là, les indépendantistes bloquent en nous disant, mais nous, si on n'a jamais de perspective que cette souveraineté française qui est exercée par l'État au travers de ses compétences régaliennes, on puisse un jour obtenir, enfin demander en tous les cas, leur transfert, eh bien, nous ne signerons pas. Et donc, nous envisageons un mécanisme qui nécessite, qui a plusieurs, finalement, cliquets. Le premier cliquet, c'est une majorité très importante d'élus du Congrès. C'est-à-dire que les indépendantistes ne peuvent plus y aller seuls. C'est 36 élus du Congrès qui peuvent demander à l'État le transfert d'une compétence régalienne éventuellement. 36 élus, vous savez, c'est beaucoup, hein. Aujourd'hui, au Congrès de la Calédonie, il y a 26 élus indépendantistes. Si nous rajoutons l'éveil océanien, ça fait 29. Et si nous rajoutons les élus de Calédonie ensemble, nous sommes à 35. Nous n'attendons pas 36. Ça veut dire que si une telle demande demain est formulée, bien à ce moment-là, il faudra vraiment une très large majorité des élus qui aillent chercher des élus non indépendantistes qui sont solidement attachés à la République française. Donc, si vous voulez, il y a un deuxième blocage. Un premier blocage, pardon. Le second, enfin blocage en tout cas, cliqué. Le second, c'est l'État qui peut... Si vraiment 36 élus venaient à demander un éventuel transfert d'une compétence régalienne, dire « ce n'est pas soutenable aujourd'hui, il a le droit de le faire », c'est ce qu'on appelle le « pocket veto » de l'État. Et puis enfin, ce sont les Calédoniens, de toute façon, in fine, qui décident. Donc si à un moment donné, les Calédoniens le souhaitent...
Ils seront sollicités pour savoir si un transfert peut se faire ou non.
Si on franchit les deux premières étapes, à ce moment-là, les Calédoniens sont sollicités, mais si les deux premières étapes ne sont pas franchies, évidemment, il n'y a pas de transfert. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un mécanisme qui permet de le demander et peut-être d'y aboutir, mais alors seulement si vraiment majorité des élus du Congrès et Calédoniens le souhaitent. Et vous voyez, la Nouvelle-Calédonie, un jour, si une grande majorité des Calédoniens souhaitent qu'elle soit indépendante, eh bien, elle le sera. Et donc, en vérité, ce mécanisme qui est là, il est quand même très sécurisant pour ces compétences régaliennes qui ne sont pas des sujets légers à évoquer, puisque pour nous, en tout cas, c'est l'état de droit en Calédonie, c'est des compétences qui ont des volumes financiers très importants, qui protègent la Nouvelle-Calédonie. On pense à la défense, on pense au maintien de l'ordre, à des compétences très lourdes. Et finalement, les indépendantistes, ils ont une perspective parce qu'ils ont la possibilité de dire à leur base qu'ils vont travailler peut-être un jour à arriver à ça. Mais en tout cas, c'est très sécurisant pour la Nouvelle-Calédonie parce que le résultat, c'est qu'aujourd'hui, ces compétences, elles sont exercées par l'État, qu'effectivement, les élus du Congrès auront un rôle important dans les années à venir. Les élections provinciales, donc, auront un rôle important à jouer. Mais cet équilibre était nécessaire pour eux.
Voilà. Alors, on revient également sur les points... de blocage peut-être, ou en tout cas les concessions que vous avez dû faire, puisqu'on retient maintenant la création d'un État, une organisation institutionnelle sui generis de l'État de la Nouvelle-Calédonie au sein de l'ensemble national inscrit dans la Constitution de la République. Concrètement, ça veut dire quoi ? C'est quoi cet État ?
Alors, Vous savez, il ne faut pas essayer de faire croire aux gens que c'est l'État fédéré, l'État associé, l'État je ne sais quoi. Il y a un article très bien d'ailleurs qui est sorti et qui dit qu'en fait, on ne peut pas catégoriser parce que cette solution institutionnelle, elle est à nouveau, comme nous sommes aujourd'hui déjà, sui generis, c'est-à-dire de son propre genre. Donc,
C'était une collectivité sui generis, maintenant c'est un État sui generis.
Donc en fait, c'est une solution institutionnelle qui n'existe que pour la Nouvelle-Calédonie, tant au sein de la République française qu'à l'échelle de la planète. Cet État, il est donc au sein de la République. Il est dans l'ensemble national, il est dans la Constitution française. Donc nous, on n'a pas signé d'accord là, aujourd'hui, à l'extérieur ou à côté. On a signé dedans, hein, c'était notre mandat. Et donc, en fait, finalement, on voit bien que c'est aussi très symbolique. Mais les indépendantistes reviennent en disant « on a perdu les trois référendums, ça a été non à l'indépendance et pour autant, notre revendication est reconnue ». Et ça, c'est important parce que sinon, l'accord, il n'était pas signé. Parce qu'on peut faire des accords contre non-indépendantistes, contre partisans de la France, mais du coup, ce n'est pas un accord, vous voyez. Et sinon, il n'y avait pas d'accord. Et je veux le dire aux Calédoniens, on est obligé dans un accord de faire des compromis parce qu'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de dégel du corps électoral, il n'y a pas de changement de représentation au Congrès, il y a des référendums à venir qu'on ne veut plus vivre. Donc, à un moment donné, vous êtes obligé de faire aussi des concessions, des compromis pour que l'accord trouve sa base. État, il est dans la République, il n'est pas en dehors.
Alors, autre concession, on imagine la création d'une nationalité calédonienne avec une double nationalité française et calédonienne. Ça aussi, ça heurte un certain nombre de Calédoniens. Et quelles en sont les conséquences de cette double nationalité? Il y a deux passeports déjà?
Alors, probablement, puisque évidemment, donc, vous comprenez bien, et c'est écrit dans l'accord, que quelqu'un qui ne voudrait plus la nationalité française perdrait de fait la nationalité calédonienne, car ce sont deux nationalités qui sont totalement liées l'une à l'autre. Elles ne peuvent exister l'une sans l'autre. Donc il y a de fortes chances qu'on ait un passeport comme aujourd'hui, toujours, bien sûr, européen et français. Nous sommes français et nous le restons. Et puis qu'à côté de ça, on ait un autre passeport qui incarne cette nationalité calédonienne. C'est finalement cette citoyenneté qui est aujourd'hui et qui se transforme d'une certaine façon en une nationalité calédonienne. Mais elle ne peut encore exister, elle ne peut, je le dis à nouveau, pour les Calédoniens, exister sans la nationalité française. Donc, et ça ne va pas dans le sens contraire. C'est-à-dire vous pouvez être français sans être national calédonien, mais vous ne pouvez pas être national calédonien sans être français.
Alors, autre point, et là, c'est plutôt dans les avancées que vous pouvez revendiquer, et on sait que vous êtes une grande spécialiste du corps électoral, ce projet prévoit l'ouverture du corps électoral, ce qui était effectivement un peu inattendu, étant donné l'ambiance qui prévalait ces derniers mois en Nouvelle-Calédonie. Mais il y a plusieurs cas de figure. Alors, le premier, un corps électoral spécial pour valider l'accord, c'est pratiquement le corps qui était en vigueur pour les référendums d'autodétermination.
Oui, absolument. C'était un point dur des indépendantistes. Ils souhaitaient que la page ouverte de l'accord de Nouméa soit fermée par les mêmes qui ont participé aux trois consultations de 2018, de 2020 et de 2021. Donc, on va se rajouter à cette liste référendaire où je rappelle que les personnes nées en Calédonie peuvent voter pour cette liste référendaire, plus les personnes arrivées avant le 31 décembre 1994. Donc, on sait bien que c'est une durée très longue. Mais en tous les cas, ça sera amendé. En tout cas, on rajoutera à la liste de 2021 tous les nouveaux majeurs qui sont nés en Nouvelle-Calédonie. Voilà.
Alors, le corps électoral pour les provinciales, c'est lui qui fait toujours débat, évidemment. Il est glissant sur 15 ans pour les premières provinciales, celles qui devraient avoir lieu en mai ou juin 2026. Pourquoi cette durée de 15 ans?
Oh, je pense que, évidemment, vous imaginez bien que nous, ce n'est pas la durée qu'on avait proposée. Hein. Vous le savez, la loi constitutionnelle de mai 2024 était sur 10 ans. Je pense que pour les indépendantistes, c'était un chiffon rouge et qu'il était inacceptable pour eux de revenir à 10 ans pour les élections de 2026. Par conséquent, nous avons accepté d'aller sur 15 ans. L'important pour nous, c'était que les personnes nées en Nouvelle-Calédonie, parce que ce sont les natifs, plus les personnes, enfin, et si ceux qui ne sont pas nés en Nouvelle-Calédonie, les personnes qui justifient 15 années de présence. Nous, ce qui était important, c'était d'ouvrir ce corps électoral. On ne peut plus interdire des gens qui sont installés depuis tant d'années, qui ont fondé leur vie, leur famille en Nouvelle-Calédonie, de choisir leurs représentants locaux. Ça représente sans doute 12 000 personnes à peu près sur... Vous savez, on a 43 000 personnes exclues du corps électoral en Nouvelle-Calédonie. Modulo ceux qui ont quitté le territoire depuis les émeutes et avec tout ce que nous avons subi et vécu. Il y a 12 000 personnes nées en Nouvelle-Calédonie qui rentreront dans ce corps électoral de 2026. Et sur les 31 000 personnes exclues qui ne sont pas nées en Nouvelle-Calédonie, il y a à peu près 12 000 personnes, 12 000, 13 000 personnes qui justifient de ces 15 années de présence. Donc on commence à avoir des personnes qui sont durablement installées, qui peuvent désormais voter, une perspective ouverte, et puis vous m'en parlerez sans doute tout à l'heure, mais cette durée est abaissée pour l'élection de 2031 à 10 ans.
les provinciales suivantes, a priori 2031, donc on reste sur la même durée de mandat, un corps électoral qui sera basé sur la nationalité calédonienne. Alors la durée, et comment est-ce que sera déterminé ce corps électoral, ça dépend encore de la loi fondamentale.
Alors, le corps électoral pour la nationalité, il est déjà en partie défini dans l'accord. Vous avez les différents éléments, donc on reprend tous ceux, par exemple, qui ont voté à l'élection de 2026. Donc tous ceux qui sont dans le corps provincial de 2026, ils ont la nationalité calédonienne, déjà, pour commencer. Ensuite, les enfants de parents qui remplissent ces conditions, mettons qu'un enfant soit pas né en Nouvelle-Calédonie, mais que son parent est aujourd'hui citoyen ou demain national calédonien, pareil, il vote également. En tout cas, il est national, et donc il votera pour les élections de 2031. Les conjoints aussi sont ajoutés. Les conjoints qui ont 5 ans de présence en Nouvelle-Calédonie, les conjoints de Calédoniens, donc de citoyens ou de nationaux calédoniens, pourront également voter. Et puis sur cette durée, effectivement, sur cette durée de personnes qui ne sont pas nées en Nouvelle-Calédonie, puisque les personnes nées en Calédonie également feront partie de ce corps électoral de 2031, mais sur ceux qui ne sont pas nés, c'est 10 ans qui est prévu, et il est envisagé que dans la loi fondamentale de la Nouvelle-Calédonie, il y ait les fameux critères d'intégration, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a une journée de formation pour ces personnes? Est-ce qu'il y a une célébration particulière? Ce qui habituellement est dans un code de la citoyenneté. Voilà. Mais en tout cas, la base des 10 années de présence est actée pour les personnes françaises, bien sûr, puisqu'il faut avoir la nationalité française, installées en Nouvelle-Calédonie.
Rapidement, il y a un auditeur qui posait la question tout à l'heure. Est-ce qu'il peut y avoir le même phénomène qui se passe grosso modo à Mayotte, où les Comoriens viennent accoucher à Mayotte pour pouvoir devenir citoyens français? Est-ce qu'ici, il peut y avoir un transfert de population qui viennent accoucher en Nouvelle-Calédonie pour pouvoir bénéficier des droits de nationaux calédoniens?
Alors, il y a deux étapes à franchir pour ce que vous dites. S'il y a, par exemple, quelqu'un qui viendrait, parce que j'ai entendu l'auditeur tout à l'heure, je le remercie de sa question, pour essayer d'y répondre le plus clairement possible, quelqu'un du Vanuatu qui viendra en Nouvelle-Calédonie pour accoucher l'enfant, déjà, il faudrait qu'il ait la nationalité française, ce qui n'est pas immédiat. Enfin, il y a des règles aussi pour obtenir la nationalité française. Le seul fait de naître quelque part ne procure pas forcément ne donne pas cette nationalité française, parce que pour être national calédonien, il faut d'abord être national français. Avoir la nationalité française. Ensuite, sur la nationalité calédonienne, il est prévu que les personnes qui sont nées en Nouvelle-Calédonie, eh bien, la durée de présence des personnes nées en Nouvelle-Calédonie, elle sera définie dans la loi fondamentale, je m'explique. Pour éviter ce genre de phénomène, il y aura sans doute une petite durée, sans doute, qui sera fixée. Ça ne peut pas être la même durée, 10 ans, que pour quelqu'un qui n'est pas né, évidemment, mais pour éviter quelqu'un qui est né ici, et puis qui, 3 ans après, s'en va, par exemple, parce que les parents sont uniquement de passage, eh bien, que cette nationalité, elle soit donnée pour une durée qui soit précisée dans la loi fondamentale. Nous battrons pour que ça soit une durée la plus faible possible, parce que quelqu'un qui est né, mais ça évitera peut-être le phénomène que l'auditeur qui a posé la question ce matin craint.
Sur cette question du corps électoral, quand même, les indépendantistes ont accepté difficilement, ça a été un vrai débat, ou finalement ils ont admis aussi qu'il fallait faire des concessions?
C'est sans doute pour eux probablement l'un des points les plus durs. C'est l'un des points les plus durs. Ils se sont battus très fortement. D'ailleurs, 15 ans, c'est très long, très très long pour voter. Ça n'existe presque nulle part au monde non plus. Donc voilà, et 10 ans ensuite, et donc, si vous voulez, c'est une double concession. Parce que nous, on a voté 3 fois non et on accepte que le corps électoral soit encore restreint. Et eux, en même temps, ils acceptent de faire un pas. Alors, certains nous posent la question de savoir pourquoi il y a une différence entre le corps électoral 26, 15 ans de présence, et puis 10 ans de présence pour la nationalité. Parce que nous, on a défendu que si c'était une nationalité, on n'était plus dans une citoyenneté, cette nationalité, il faudrait qu'elle soit fédératrice. L'objectif, c'est que les gens ils aient envie d'en être pour développer ce territoire et faire en sorte que demain, nous soyons développés, nous ayons de la prospérité économique. Donc si c'est pour être sanctionné ceux qui souhaitent parvenir à accéder à cette nationalité calédonienne, ça n'a pas de sens. Et que pour nous, donc, nous avons défendu que s'il y avait nationalité, cette durée devait forcément être moins élevée.
Alors, vous avez obtenu également des avancées, on peut le dire comme ça, sur la composition du Congrès. C'était l'un de vos combats. Quelles sont les modifications essentielles qu'il faut retenir? Une meilleure représentation de la province sud?
Bien sûr. Aujourd'hui, il y a donc 59%, je le disais tout à l'heure, d'élus de la province sud au Congrès, c'est-à-dire 32 élus sur les 54.
Un Congrès qui passe à 56 membres.
Le Congrès passe à 56 membres, mais surtout les élus de la province sud passent à 36 élus. Ce qui, rééquilibre... Il y a 75% de la population qui vit en province sud. Donc on n'est pas encore à 1-1. On a encore consenti un décalage, mais cette avancée représente mieux les équilibres. Et vous le savez, nous le disons à un moment donné, nous avons aujourd'hui une majorité de 26 élus indépendantistes au Congrès, alors que la Nouvelle-Calédonie est majoritairement non-indépendantiste. C'est pas normal, à un moment donné, que les indépendantistes se battent sur le terrain pour gagner des voix et convaincre que l'indépendance est viable. C'est le jeu politique et de la démocratie, mais pas qu'en limitant le nombre d'élus de la province sud, on ait une majorité indépendantiste au Congrès qui soit pas réelle et qui ne corresponde pas à la population calédonienne. Donc, là, cet élément, il était important en termes aussi de démocratie et nous l'avons vraiment défendu parce que, moi je le dis aux indépendantistes et nous l'avons dit pendant toutes les négociations à Bougival, ils veulent un État, ils veulent un Parlement, ils veulent... Mais alors, à ce moment-là, c'est sur une base démocratique ou pas ? Si on est un pays, c'est sur quelle base, en fait ? C'est une dictature, c'est une démocratie ? Donc, ces éléments-là, on s'est vraiment battus jusqu'au bout et sont importants pour nous.
Des avancées aussi en matière de compétences provinciales, là aussi, c'était un peu une de vos revendications, une, en tout cas un élément sur lequel vous êtes battus.
Complètement, c'est au cœur de notre projet. Nous militons, vous le savez, depuis longtemps pour la différenciation provinciale, c'est-à-dire que province nord, province des îles et province sud ont des réalités culturelles, de populations démographiques différentes et qu'elles ont le droit d'avoir des modèles différents en termes d'économie à différents niveaux. Et donc ça, ça se donne dans la liberté de mise en place des modèles. Et nous, c'était très important pour nous. Donc il y a sur la fiscalité des avancées, hein, pour faire en sorte que les provinces, chacune, puissent avoir une marge de manœuvre plus importante sur ce secteur, enfin sur ce secteur de la fiscalité. Et puis, il y a un mécanisme qui doit être mis en place dans la loi organique spéciale de l'État, votée par les sénateurs et les députés, qui sera donc travaillée et qui prévoira que chaque province puisse demander que des compétences de la Nouvelle-Calédonie lui soient transférées. Nous, en province sud, vous savez, on a envie que les compétences de développement économique, qui d'ailleurs relève des provinces aujourd'hui, eh bien, bénéficient de tous les outils de ce développement économique. La fiscalité en fait partie, le droit du travail en fait partie. Et donc, on a la volonté, effectivement, que les provinces puissent solliciter l'exercice et le transfert de certaines compétences de la Nouvelle-Calédonie vers elle-même.
Pour conclure, merci pour toutes ces précisions. On aura l'occasion, bien sûr, d'y revenir, puisque c'est un accord un peu complexe. Il va falloir tout détailler, mais il va falloir convaincre maintenant. Déjà, dans un premier temps, les réactions au sein du rassemblement, lesquelles vous avez eues depuis votre retour ?
Mais écoutez, moi, je suis arrivée jeudi à 2h du matin, mercredi à 2h du matin, et jeudi soir, déjà, à 18h, au sein de notre permanence, nous réunions notre comité directeur, cadre, élu, référent. On avait plus de 250 personnes, c'était très nombreux. Les personnes étaient venues très nombreuses, on voit qu'il y a une attente de réponse. Nous faisons le travail de pédagogie, je pense que les indépendantistes le font également. Ils ont eu des avancées, nous avons des avancées qui sont importantes. Et surtout, je veux bien dire aux Calédoniens que ce que nous avons souhaité dans cet accord, c'est dégager leur horizon, leur redonner de la stabilité, de la visibilité et de la paix aussi. Nous sommes au sein de la République, nous restons français. C'est ce que nous défendons. Nous avons eu plutôt un accueil favorable à des plus de 250 personnes au sein de notre permanence. Avec les loyalistes, nous nous organisons désormais pour chacun faire beaucoup de réunions de proximité pour expliquer aux uns et aux autres la totalité de cet accord. Je voudrais dire une chose très importante. C'est que dans cet accord, peut-être contrairement aux autres, nous avons veillé à ce que chaque mot soit clair. Il n'y a pas de loup derrière les phrases. Il n'y a pas de virgule mal placée qui tendrait à comprendre dans un sens ou dans un autre. On a fait réécrire des fois certaines parties qui nous semblaient ambiguës parce qu'on a trop souffert des ambiguïtés. Alors,
Il y aura encore les rédactions de la loi organique, de la loi fondamentale. L'accord n'est pas bouclé là pour l'instant.
Absolument. Et c'est la deuxième chose que je voulais dire. Notre réseau national et notamment aussi celui du Rassemblement, et vous savez, notre proximité notamment avec le président du Sénat, Gérard Larcher, fait qu'aussi, il nous a assuré, et d'ailleurs il l'a dit à l'ensemble des délégations, qu'il s'engager avec la présidente de l'Assemblée nationale, Brune Pivet également, dans un travail très sérieux sur la rédaction constitutionnelle qui va arriver dès l'automne en métropole désormais, avant que les Calédoniens soient consultés. Et ce travail va être très précis et nous y sommes extrêmement vigilants. Et je pense que les indépendantistes également, ça sera la même chose sur la loi organique après que les Calédoniens aient choisi ou pas d'ailleurs de voter cet accord.
Merci Virginie Ruffnac pour tous ces éclairages sur ce projet d'accord.